Françoise Tressart et la belle équipe pour la récré littéraire, le dernier numéro de l'année, mi-privé, mi-public, pour un joli dimanche, des sardines mises en pub, la rencontre entre la sirène d'Homer, Dominique Muller, et le pompier de service, Lucas Fournier.
Alors, la petite sirène qui couine là, hein, c'est ma muse, elle m'amuse. Alors, je la connais bien, hein, c'est la mienne.
Ah bon ?
Oui ! Vous savez quelle est la différence entre un pompier et le Père Noël ?
Non.
Eh bien, il n'y en a pas. Tous les deux ont...
des reines.
Sirènes. Ah. Vous voyez, hein ?
Un échange de lettres pour un nouveau jeu de société. Le rat, le lion qui rimaille dans le zoo de La Fontaine. Et pour des croquettes, Patrice Caumont.
Dans les croquettes La Fontaine, on peut varier le menu. Riz soufflé à la tibétaine. Ou façon perrette au lait cru. Bam, 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 bam.
Et encore des mots nouveaux pour le dire, par Éval Massy, Jean-Bernard Pouy et Violaine Schwartz. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58 pour un moment bien au chaud à l'écoute des papous. Une émission à télécharger sur franceculture.fr pendant un an, à réécouter comme les contes des mille et une nuits, moins une, mais le jour aussi. Et pour se lancer un joli dimanche, notre jour préféré de la semaine, c'est celui qui nous réunit. Un joli dimanche proposé par Dominique Muller sur un auteur qu'elle aime, un auteur qu'elle a étudié de près, puisqu'elle a rédigé son mémoire sur lui et son œuvre. Dominique Muller, quel joli dimanche.
Un dimanche de robe grillée.
Oui.
L'ombre de l'agenda, ouvert à la page du dimanche, s'allonge sur le bureau, en travers de cette partie haute de la journée, sous le mot « dimanche », rasant à gauche le nom d'un saint. Déjà l'extrémité du trait d'ombre atteint l'indication 8 heures. Sur le papier, il y a des miettes de pain, 3 environ. Assis face à la porte de la cuisine, A regarde la page vide dont ils ont parlé hier. Elle sait qu'il passera le dimanche à son bureau. Pourtant, elle a souhaité une sortie à la campagne, au musée, au cinéma. Au moins qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit, dans la chambre. Alors, il a fait griller 2 tranches de pain de la veille, pendant que le café chuinte dans le filtre. Il n'a pas trouvé les capsules qu'elle utilise du lundi au samedi. Il fait tout à fait jour maintenant. Il garde les yeux fixés sur l'onglet en bas de la feuille de couleur bleue, très pâle, du format ordinaire d'un agenda. Ce soir, elle ou A le détachera. Dans l'espace vierge de la page, elle aura inscrit « petit déjeuner » peut-être entre 8 et 9 heures. Il marche vers la cuisine, emplit la tasse presque jusqu'au bord d'un mélange de café et de lait froid où fond un petit cube de sucre. Pour ne pas risquer d'en renverser le contenu dans le couloir, il avance vers la chambre, tenant avec précaution le plateau qu'il lui destine. Réveillée, elle s'appuie d'une main à l'oreiller, se redresse d'un mouvement souple, s'empare de la tasse et murmure quelques mots. Un remerciement peut-être. « Quand même, dit-elle, c'est dimanche vide. » Puis elle mord dans le pain et constate « sec, froid, trop grillé ». C'est mental surtout ces choses-là, dit-il. Elle montre ses bras nus dont le duvet blond se hérisse. Il n'est pas rare à présent qu'elle compare son mari à une robe sans manches. Pour elle, A est en robe sans dimanche. Elle veut qu'il augmente le chauffage, peut-être, dans la chambre.
Retour sur nos 30 ans, fêtés en public à la Maison de la Radio, dimanche 30 novembre. Vous avez pu entendre cette folle journée en 3 dimanches, mais comme nous sommes restés ensemble au studio 104, 2 fois 2 heures et même un peu plus, restent des jeux à découvrir aujourd'hui. Et d'abord, pour aborder un passage maritime dans les papous du jour, un hommage aux sardines en forme de publi-papoucité par Patrice Caumont, avec Jeanne Carillon, Lucas Fournier et Dominique Muller. Les sardines en boîte, bien sûr, mais aussi les sardines clin d'œil aux sardines, les nôtres, chanteuses de Trenet, qui nous accompagnaient tout au long de ce dimanche anniversaire. Patrice.
On pourrait, à propos de la sardine, évoquer Alexandre Borodine, qui composa son quatuor de la tsarine à la lampe à huile pour le tsar qui, on ne le sait pas toujours, déjeune de sardines grillées au beurre.
Oui, le tsar dîne.
À l'huile.
À l'huile.
À l'huile.
On pourrait la chanter telle Aznavour.
La sardine, ça se conserve pendant 20 ans. La sardine, ça vous rendra toujours heureux. La sardine, nous en mangions un jour sur deux.
On pourrait citer Hugo qui les célébra dans les sardines, fameux poème qui se termine en queue de poisson.
Mer, huile et boîte, asile ou couate, se tiennent sardines étroites, copines.
On pourrait parler de ce message de la prévention côtière contre l'abus d'alcool à la barre. Attention, marin, l'alcool au ponant peut vous faire dépasser les bouées ou griller une balise. Boire ou barrer, il faut choisir. Alors, mangez des sardines.
Car la conduite de la sardine est remarquable. Elle ne suit pas le triste exemple de ses compagnons d'océan. Si les gambas flambent au cognac et le saumon se saoule au vin rouge, si les moules et le cabillaud se piquent le nez au vin blanc et les sols se laissent filer au champagne, si le maquereau s'imbibe au muscadet et le homard au whisky, la sardine, elle, s'inscrit au poisson non alcoolisé.
On n'a jamais vu de sardines, même en banc de copines, se bécoter sur les bancs publics. Et parmi les jeunes, nulle sardine ne fut contrôlée positive à l'alcotest en sortie de boîte.
Alors, avec ou sans arrête, et même sans queue ni tête, soutenez les sardines et leurs huiles essentielles. Consommez-en au moins 5 fois par jour.
Un vieux marin sur son drakkar, sur une mer pleine de brouillard, pêchait, pêchait sans hameçon, rien qu'en chantant cette drôle de chanson.
Ma sardine, toi si jolie, ma sardine, viens par ici. Ma sardine, l'eau c'est trop froid, mais c'est fini, allez viens près de moi. Sardine radine, toi au plus près, sirène coquine, tu le fais exprès. Tu dois cesser tes petits tours et embarquer pour citerrer l'amour. Ma sardine à la jolie, ma sardine viens dans mon lit. Faut que je dîne, j'ai faim de toi, de ta chair grasse. Et tes oméga 3. C'est bien parti, t'as qu'à plonger jusqu'à l'arête, on va s'aimer. D'impatience, tu dois griller, mais tu verras, dans l'huile, tout va baigner. Ma sardine, toi si jolie, ma sardine, citron persil. Ma sardine, tu verras bien qu'un vrai marin, ça prend le vent comme il vient.
Un vieux marin en plein brouillard s'est jeté à l'eau, non par cafard, mais par amour et sans remords, car l'ondine n'a pu monter à bord.
Ma sardine à la jolie, ma sardine viens dans mon lit. Faut que je dîne, j'ai faim de toi, de ta chair grasse et tes oméga 3.
Les sardines, la mer en public et pour les papous, côté privé, la mer encore, Homer. Une aventure racontée par Dominique Muller et Lucas Fournier. Dominique Muller, personnage de fiction, qui écrit à son auteur pour lui demander de changer un petit peu le cours de son histoire. Vous êtes qui, Dominique ?
Je suis la sirène. La sirène, la seule, la vraie. Et j'écris à Homer, Monsieur Homer.
Je ne sais pas pourquoi je vous ai posé la question, mais c'est évident.
Ça se voit en plus.
Ça se voit, oui.
Maison des aèdes non-voyants, évidemment, à l'île de Chios.
Oui.
Monsieur Homer, qu'est-ce que j'entends que dans le machin 12 de votre Odyssée, Ulysse et son équipage n'aurait pas été subjugué par notre chant, naviguant droit par le détroit de Messine pour aller de Charybde en Scylla. Oh, je ris de me voir sirène dans ce foutoir. Oui, monsieur Homer, votre pseudo-récit est un bazar foireux. Je vous l'écris en gros caractères, dans l'espoir qu'un voyant vous lit votre courrier d'aveugle, ou plutôt le braille, car je vous soupçonne aussi d'être sourd. Eh oui, c'est triste, je compatirai quand vous aurez corrigé les mensonges que je m'en vais dissiper de ce pas. M'en vais et de ce pas sont des figures de style. Entre handicapés, on connaît la musique pour rêver la vie qu'on nous refuse, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas et décrivez le vaste monde. Moi, je ne marche pas et surtout pas dans votre poubelle truffée d'immondices. Vraiment, monsieur Homer, vous devriez consulter la déesse Odica affûtée de la feuille. Vos pavillons bouchés vous font déformer les phrases. Ça crève les yeux. Oh, pardon. En tant que reine des sirènes, ma troupe m'appelle Sirérène, je me dois de laver notre honneur. Sachez que nos spectacles sont prestigieux, nourris au lait d'un répertoire qui va du mycénien à l'opérette, au miel de répétitions acharnées. Quoique boulettes, nous les surmontons toujours, comme le prouve le titre de six boulettes donné à l'œuvre tant les sirènes ont peiné à l'avoir en bouche. Nous avons fait un beau voyage, ça ne vous rappelle pas Ulysse? Et nous arrêtons à tous les pas. C'est pile ce que votre héros aux mille tours a fait, comme tous les autres. Eh oui, monsieur Homer, il s'est arrêté chez les sirènes. Il y est resté, il a chanté avec moi. Les oiseaux se mettent en ménage. Hélas, vous avez confondu ce boudin de Nausicaa avec la déesse Sirérène, qui méduse par son visage de beauté fatale, son corps d'oiseau, sa voix de Calas, votre compatriote. Si vous saviez ce que les jalouses racontent comme balivernes sur nous, que nous regardons s'échouer nos victimes à l'heure de leur sieste, que nous vivons sur une prairie couverte de leurs ossements. À Londres, nous avons des loges tapissées de velours, comme toute primadonna digne de son rang. D'ailleurs, c'est sur le sofa de ma loge qu'Ulysse a succombé à mes tris et déliré à ma lyre. Zing, zing. Croyez-moi, je sais agrémenter les siestes du marin. Je n'ai pas de jambes, mais j'ai des bras pour étreindre. Des seins où se nicher, vous n'avez qu'à regarder vos vases. Flûte, encore pardon, vous ne pouvez pas me voir en peinture. Ulysse et moi avons coulé de longs mois de félicité jusqu'à ce que l'équipage se mutine pour rentrer et toucher sa solde. Il est vrai qu'il avait bouché leurs oreilles à la cire avant de se lier à son mât pour ne pas nous céder. Mais pensez-vous vraiment que des boules quies suffisent contre mon contrute qui brise les amphores? Ulysse a eu vite fait d'accourir pour me montrer de quel mât il se chauffait. La note est osée, mais nous n'avons pas froid aux yeux, nous autres. Oh, mes excuses. Je ne me remets pas de son départ, pour tout vous avouer. Mon célèbre timbre s'est voilé. Il me laisse à peine de quoi expédier cette lettre. Aussi, j'exige que votre odyssée, qui ne serait rien.
Tardif encore, oui. Tardif, mais vous comprenez, il faut le temps de les intégrer.
Aussi, j'exige que votre odyssée, qui ne serait rien sans Ulysse, sublime notre doux lien pour la postérité. Si vous êtes assez vaillant, je vous invite à nous visiter afin de me voir de vos yeux. Oh, zut, de palper mes courbes de reine pour vous rendre compte qu'on ne plaque pas la sirène. Mais si vous me laissiez moisir sans réponse, je chanterais partout. Homer est un poltron, son ouineux tourne pas rond. En plus d'être bigleux, il manque son est scandaleux.
Moi, je réalise que c'est ça le fameux chant des sirènes.
Bah oui,
mais quelle voix, quelle voix.
Mais non, vous n'êtes pas comme ces envieux, ce serait la fin des haricots. Corrigez et vous aurez nos voix à l'élection du roi des Aèdes. La voix des sirènes, ça vaut de l'or. Je vous embrasse, votre sirérène. Post-scriptum, Ulysse m'a paru en avoir gros sur la patatose de ce voyage interminable qu'un marin rusé comme lui bouclerait les doigts dans le nez. Si vous pouviez préciser qu'il traîne en route parce que Pénélope est assommante, mais bon, je ne veux pas me mêler de son histoire conjugale. Et pardon, je n'ai pas de nom pour vos machins d'Aède, rengaine, goualante, si, d'accord, mais le chant, c'est nous.
Bah, c'est vrai, elle a raison. Moi, je comprends sa plainte, quand même. Hein.
Ça, oui, et puis ça se termine pas en queue de poisson.
Oh, bravo Jacques, vous y pensez depuis le début, je suis
sûre. Elle est très bien. Elle est très bien.
Dites-moi, Lucas Fourny, vous seriez Homère ?
Oui, je suis Homère.
Oui.
Homère Pimponios.
Ah, c'est un autre.
Pompier de service des marins-pompiers de Chios.
Uh-huh.
Ah oui, toujours pompier bon oeil. Hein. Pas comme ce pauvre Homère, justement, l'autre. Pas Homère Simpson, non, le Homère de l'Iliade et l'Odyssée. Homérus dicitur caecus fuissé. Je peux vous le dire autrement. Hein.
Oui.
Dicitur Homerum caecum fuissé. Mm-hmm. Là, c'est plus clair. Hein. Homère, le Stevie Wonder de la littérature, le Andrea Bocelli de la grande histoire. Non, la vraie question, c'est comment un type qui ne voit rien peut écrire 12 900 hexamètres tactiliques sans magnétophone, sans ordinateur.
Ouais.
Pardon pour la digression, hein, mais chez Homère aussi, la digression est parfois un peu lourde. Alors, là, la petite sirène qui queen, là, hein, c'est ma muse, elle m'amuse. Alors, je la connais bien, hein, c'est la mienne.
Ah bon ?
Oui, c'est la mienne.
Ah bon ?
Oui ! Vous savez quelle est la différence entre un pompier et le Père Noël ?
Non.
Eh bien, il n'y en a pas. Tous les deux ont...
Des rennes.
Sirènes. Vous voyez, hein, comme quoi, sous le casque d'or du pompier, il y a un cerveau tout feu, tout flamme. Sapeur et sans reproche, marin-pompier en Méditerranée au 8e siècle. On fait du secours à grande échelle, avec Caribe et Scylla qui nous fabriquent des petits Titanics tous les jours, avec les marins perdus, le cyclope, les monstres, les caprices des dieux. Il faut aimer le service public. Je sais bien que vous êtes là pour vous détendre, mais il faut savoir que nous, les pompiers de Chios, on n'a plus rien. Avec la crise grecque et le FMI sur le dos, on n'a plus de quoi s'offrir des uniformes. Je passerai tout à l'heure pour vous proposer notre calendrier des pompiers de Chios. On a posé avec les collègues sans uniforme, puisqu'on n'en a plus.
Tout nu ?
Non, avec le casque, façon feuille de vigne, à la grecque, quoi. Alors ça nous aiderait pour la sirène, parce qu'il faut qu'on la change. On vous l'a fait entendu, hein. Elle monte dans les aigus et après elle se met à descendre. Alors descendre pour des pompiers, c'est normal en même temps. Mais je crois que son si bémol est complètement déréglé et qu'elle a coulé une dièse. Non, cette sirène, au tout début, j'en étais très content. Avant elle, on avait acheté une sirène du port d'Alexandrie. Mais le problème des sirènes du port d'Alexandrie, c'est qu'elles chantent toujours
la même mélodie.
Wow. Tandis que celle-là me faisait un trois tons. Odyssée, Odyssée, Odyssée. Mais avec le temps, tout s'en va, même les plus chouettes choses. Il est arrivé un petit incident. On était passé un soir chez Circé, une fille bizarre mais sympa. Pour vous la situer, c'est la sœur d'Étès et de Pasiphaé. Alors, je ne sais pas ce qu'elle nous a fait boire comme résinée, mais malgré le casque, on avait un mal de cheveux. Résultat, en rentrant le char au garage, j'ai loupé le ponton et nous voilà à l'eau. Depuis, la sirène nous fait des bruits bizarres. Ah, vous l'avez entendu. Hein. Moi, je vous le dis, l'eau de mer, ça ne vaut rien pour les sirènes. Comme dit Ovide, « Bonum vinum godeat cor hominis, sed bousillat vox sirenae ». Ouais. Je me souviens bien de cette soirée parce que ce soir-là, Euryloque...
Il le dit en latin, donc ça c'est intéressant.
C'est
vrai, je savais pas
que... Grec, oui, mais... Non, mais il peut être bilingue, hein.
Non, mais vous savez que nous avons deux langues, enfin, dans le bassin méditerranéen. Alors, puisque vous savez tout, monsieur, chez Euryloque, ce soir-là, Euryloque, c'est pas courant comme prénom, mais il en faut. Donc, Euryloque, il nous en avait raconté une bien bonne. Il faut bien la dire, sinon elle n'est pas drôle du tout. Hein. Je vais essayer. Ni en latin, ni en grec. Allez. Ulysse et Pagaie sont dans un bateau. Ulysse tombe à l'eau. Qu'est-ce qui se passe ? Pagaie rame.
Les papous, c'est dans la tête sur France Culture.
Et aux papous, peu de SMS ou de mails. Nous avons un faible pour l'écriture classique. Les papous seraient l'un des derniers bastions de l'envoi de lettres. Peut-être parce que c'est fou ce qu'on expédie comme courrier imaginaire aux papous. Des lettres inattendues, parfois aussi entre des personnalités qu'a priori tout sépare. Grâce à nous, les facteurs ont encore leur sacoche pleine. Tenez un nouvel exemple avec cet échange entre Jacques Jouet et Patrice Delbourg, un échange qui tombe pile poil pour les fêtes de fin d'année. De quoi s'agit-il, Jacques ? Qui écrit ?
C'est Le Corbusier qui écrit.
Non. Ah bon ?
Oui.
Et il écrit à qui ?
Il écrit à Charles Darrow.
Qui est ?
Oh, Charles Darrow, mais oui.
Pardon, je ne sais
mais
pas.
Mais c'est le créateur du Monopoly dans la version la plus diffusée du jeu. Parce que le Monopoly existait avant lui, mais c'est lui qui a vraiment...
Il a fait la version française ?
La version qui est
devenue... La rue de la paix et tout ?
Oui, bien sûr, oui.
Ah oui !
En tout cas, c'est celle que connaissait Le Corbusier.
Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il lui dit ?
Ben, il lui dit « Dear Mr. Darrow ». Mais après, il continue en français, rassurez-vous. « Mon nom, j'en suis sûr, ne vous dira rien. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'ils me disent tant que cela à moi-même. J'en ai déjà changé une fois de nom. Il faut bien que je m'y fasse. Je ne vais pas encore le troquer contre un autre sous prétexte que je ne suis pas parvenu avec celui-ci à me faire connaître et surtout à diffuser mes idées moins sur l'architecture proprement dite que sur l'habitat humain. Mais trêve de tergiversation, voici dear Mr. Darrow, ce qui m'amène. L'autre jour, dans mon agence d'architecture, l'un de mes collaborateurs les plus en vue, alors que je dois dire, nous ne croulions pas sous les commandes tant privées que publiques, sortit un exemplaire de votre jeu, en déplia le support cartonné, distribua des billets de banque et lança les dés en nous expliquant les règles. Très vite, les développements, retournements, revers de fortune et autres me parurent des plus passionnants. La manière dont vous parvenez à gérer une réduction drastique des enjeux de la propriété foncière en société capitaliste sans rien abandonner de l'essentiel m'a paru tout à fait réussi. Rien à redire là-dessus. Achat, vente, rachat, coup de dé, corruption, prison, sortie de prison, privatisation des gares, propriété sacrée, tout y est. Ah, l'avenue Mozart et la rue Lecourbe, les grands écarts. La rue de la Paix et le boulevard de Belleville. L'écart majeur et la lutte des classes. Il y a une chose qui ne va pas. Et c'est, vous allez le comprendre, la raison de ma lettre. Il n'est pas possible que votre jeu, qui se passe dans la ville immense, la ville moderne de Baudelaire, la rue assourdissante autour de moi hurlait, la ville qui s'élance à l'assaut du ciel pour aller le gratter, soit émaillée de petites maisonnettes ridicules et vertes, à toits pentus et d'hôtels qu'ils ne le sont pas moins ridicules pour être rouges, exactement comme si nous étions dans la campagne la plus reculée du Morvan, là où vit retiré Patrice Minet, par exemple.
C'est vrai.
Non.
C'est vrai que c'est le point faible du jeu, les petites maisons, oui.
Non, vous plaisantez. Vous ne pouvez pas continuer comme ça à vous affirmer aussi peu moderne. Fini les petites cheminées qui fument dans la France profonde ou dans le Nebraska encore plus profond. Laissez-moi vous dessiner des silhouettes d'unités d'habitation sérieuses qui feront merveille sur les cases de la rue de Vaugirard ou de la place Pigalle. Plus de ces immeubles haussmanniens dont vos petites casemates de bois peint sont aussi les figures. Je vois d'ici les 10 ou 15 étages de petits bétons allant capter la lumière jusqu'au menton des joueurs qui feront enfin de la spéculation sérieuse. Voire de l'habitat collectif rationalisé, tel que la prochaine guerre, avec toutes ces destructions programmées, nous permettra peut-être de voir venir et par conséquent de bâtir. Oh, réfléchissez, dear Mr. Darrow. Je sens que vous pouvez m'aider grandement dans la vocation qui est la mienne. N'y manquez pas, je vous en prie, et acceptez cette collaboration que je vous offre de grand cœur. Corbu.
Corbu pour les intimes.
Pour les intimes. J'espère que nous allons devenir intimes.
Ben, c'est une excellente idée, parce que c'est assez moche, ces petites maisons, c'est vrai. Encore quand on peut s'offrir un hôtel.
Hein. Mais vous avez vu ces hôtels ?
C'est un peu plus gros.
Mais il n'y a pas beaucoup de place aussi sur les cases.
Oui, mais on pourrait imaginer déjà...
Mais en hauteur, mais c'est comme dans la ville, il n'y a pas beaucoup de place dans la ville non plus.
Oui.
Il suffit de monter.
Des gratte-ciels.
Des maisons sur pilotis.
C'est un autre jeu, alors.
Patrice Delbourg, vous jouez à tous les jeux, même à Question pour un champion. Je vous ai vu un jour à la télévision. Vous avez gagné d'ailleurs. Hein ? Et je suis sûre que vous êtes un adepte du Monopoly, je ne me trompe pas.
Oui, tout seul.
Vous jouez au Monopoly
tout seul.
Comment vous faites ?
Ben, j'y joue seul.
Vous faites tous les pions ?
Oui, je vais d'une chaise à l'autre et puis je fais tous les joueurs à la fois.
Vous êtes votre propre rival.
Mais en faisant autre chose, hein, en faisant mes comptes, en regardant la télé, en écoutant la TSF.
Donc vous gagnez en général.
On joue toujours pour gagner, sinon ça n'a pas de sens.
Ben oui. Alors, donc, vous comprenez cette lettre de Le Corbusier à Charles Darrow.
Oui, sauf que Darrow, en fait, c'est Darrow.
Oui.
Charles-Edmond Darrow, 24 place du Martrois, Bourganeuf, dans la Creuse.
Ah, c'est pas Darrow.
Non, ce n'est pas Darrow.
Ah, c'est pas le bon Darrow qui
Darrow.
A reçu la lettre.
Ah, oui, bien évidemment. Cher Corbu, oui.
Ouais.
C'est pas Darrow. Bien cher Corbu. J'ai pris connaissance de votre proposition et j'en reste comme de ronde flanc. Et même comme trois cuillerées de pouty. Comme on dit par chez moi, vu que j'ai conçu ce jeu, mon jeu à Brioude, que je l'ai développé à Montluçon pour enfin lui donner son essor à Bourganeuf. Pas la ville de Baudelaire, mais d'Eugène Chapoutot-Tonnelier. La manne au poulie, que ça s'appelait au début mon jeu, la manne au poulie. Ce que le marketing parisien et les gougnafiers en ont fait après, avec ses boutiques à rupins, ses rues à fringues chics, et tout ce commerce de hôtel nul, c'est plus mon problème. Moi, je l'ai conçu comme un gymkhana rustique, un steeplechase rural. Le joueur partait de la Venelle aux Champs pour rejoindre l'allée des Coquelicots, en passant par le Gabion ou Bécasse et le Silo à maïs. Entre quatre champs communaux, il pouvait s'enliser sur les berges de la Gartempe et passer une nuit au cabanon du Père Georges. De temps en temps, le joueur posait son baluchon dans le caniveau et prenait une rasade de casse-poitrine. J'ai dessiné des figurines sur le sujet. Vous pouvez vérifier, espèce de gros pignouf. Tout a été imaginé par Bibi. Tout! C'est ça la manopoulie, vain Dieu. Alors, qu'est-ce que vous venez m'épiler les neurones avec vos façades vertigineuses, vos usines à gaz, vos puits de lumière et ces perspectives de béton imbécile qui cassent mon décor? Vous voulez polluer mon jeu avec des élucubrations architecturales qui font spammer les notaires bléchards et les agents immobiliers véreux, hors de ma vue. Laisse béton, Le Corbu. Sachez que le jeu se joue au départ sur le cadastre rêvé de La Souterraine, avec deux châtaignes en guise de dé. Celui qui possède trois lepins du pré au génisse peut élever une hutte en paille avec trois cabanons. Il érige ensuite une étable en dur. On paye en girole. On passe son tour si on fait deux chiens d'an de suite. Le gagnant est celui qui respire le mieux entre la mangrove et la fosse à Purin, et surtout celui qui a le plus de petits arpents du bon Dieu dans son tablier à carreaux. Voilà, voilà ce que c'est la manne au poulie que j'ai créée en 1953, moi, Charles-Edmond Darrow, le jour de la mort de Staline, mais n'y voyez aucune malice. Dans la souillarde de ma demeure, au 24 place du Martrois, à Bourganeuf, Creuse. Alors, Le Corbu, ne me courez pas sur le flageolet. Repliez le soc de mon invention et allez plutôt jouer à la marelle sur vos parvis de béton.
Oh, c'est magnifique et c'est une idée formidable de jeu, Patrice Delbourg.
Le gymkhana rustique.
Ouais.
Ça s'appelle le jeu de loi. Hein, de...
C'est vrai. Oui.
Is that you, Santa Claus? I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because hanging the stocking, I can hear the knocking. Is that you, Santa Claus? Sure is dark out, ain't the sight of spark out on my clacking jaw. Who's there? Who is it? Stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasant for me. That is just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Old winds are howling. What would that be right? My legs feel like stars. Yeah, my old.
that you, Santa Claus? I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? I said, who's there? Who is it? You stopping for a visit? Is that you, Santa Claus?
Louis Armstrong, is that you, Santa Claus? Les Papous, côté public, retour aux 30 ans des Papous dans la tête, avec une dernière séquence à découvrir. Et si les Papous adorent la prose, ils se frottent aussi spontanément et avec légèreté à la difficile contrainte du poème. Du petit rimailleur au fabuliste, en passant par les bouts rimés. Odile Conseil, par exemple, eh bien, elle aime bien écrire des fables dont les personnages sont des mots de hasard, des mots tirés au sort. Et pour ce jour anniversaire du 30 novembre, elle avait reçu deux héros, au joli patronyme, le léger défaut et le petit boulot. Deux héros pour une rencontre improbable, dans une fable avec moralité, parce que ce qu'Odile aime le plus dans la fable, c'est sa morale. C'est bien ça, Odile ?
Absolument, et j'ai mis entre eux des lapins. Donc, ouais. Le léger défaut, les lapins, et le petit boulot. Un gros défaut, un jour, mit au monde un enfant. Ce fut petit défaut, on l'appela Fanfan. Lui-même disait Jean-Jean ou Pampan ou Vanvan, car ce petit défaut bésayait tant et tant que pour bien le comprendre, c'était pas du nanan. C'était pas un cheveu qu'il avait sur la langue, mais toute une toison qui plombait sa harangue. Véveillez-vous voter, c'est vraiment pas arrant. Parce que l'on vous moque à peu près tout le temps. Aussi, Vanvan bleurait et se désespérait. Je fuis les ébés faux, mais c'est un vrai bon fond. The tar, the bar, the par, d'ici, cercer un gombagnon. À l'autre bout du bourg vivait un petit boulot, une sorte d'équilibriste, un drôle de numéro. Il connaissait du monde, mais peu d'amis fidèles, car il ne leur donnait que des petits bouts de ficelle. Jamais de quoi bâtir sérieusement sa vie, seulement quelques miettes, à peine quelques radis. C'est là-dessus qu'arrive notre léger défaut. Plein d'un vibrant espoir, il lui lance bien haut. Donzour, veux-tu fanfan, c'est un léger défaut, feras-tu mon habit? Oh, dit le petit boulot, je ne puis décemment vous servir comme habit. Mais restez avec moi quelques jours par ici, j'ai un petit travail que je veux vous donner. Vous serez salarié avec un CDD. Ah non, certainement pas. Va mais de DDT. Je fais très bien que fait mauvais pour la santé. Moi, tout ce que je veux, c'est prouver un lopin avec qui rire et soir, du boire jusqu'au lapin. Du lapin, parfaitement, reprit Petit Boulot. C'est de cela qu'il s'agit, de leur enlever la peau pour en faire des manteaux et de très doux chapeaux que ces dames porteront dès qu'il fera moins chaud. Commencez tout de suite, ce sera vite fini. Vous aurez votre paye au plus tard mercredi. Gardez vos peaux de catin, c'est vous qui me faites chaud, avec tous vos tantos, vos chameaux, vos rameaux. Je veux juste un habit, un vrai, un toto. Mais vous n'en chantez rien à mon gentil propos. Vous êtes complètement douché au céleri. Moi, votre DDT, j'en fais des compétis. Et puis, il s'en alla, plantant là le boulot, qui se demande encore quel est ce zigoto. Et j'aime tellement les moralités qu'il y en a deux à cette histoire. La première, si tu veux un ami, exprime-le clairement, cela t'évitera bien des embêtements. Et la deuxième, dans cette société, trouver un ami vrai, c'est encore moins facile qu'avoir un CDD.
Et donc, une page de pub, une publipapoucité, toujours mitonnée, tricotée par Patrice Caumont. Et elle concerne un grand auteur qu'on aime beaucoup. Il n'y a pas que Victor Hugo au Papou, il y a aussi Jean de La Fontaine. Et donc, c'est une pub sur La Fontaine, avec piano, avec chanson, avec des rôles pour Hervé Le Tellier, Dominique Muller et Lucas Fournier, évidemment pour Patrice Caumont également. C'est parti.
Votre chat ne miaule plus, ni ne ronronne, sa fourrure se mite, ses poils il abandonne.
Il est temps de changer sa gamelle et ses mets.
Sourisseau ou moineau lui passe sous le nez, il ne songe qu'à dormir, votre pauvre minet.
Il est temps de changer sa gamelle et ses mets.
Ouvrez une boîte de La Fontaine gourmet, votre grippe-souris ne sera plus muet.
Avec la pâtée La Fontaine, son pelage retrouvera la douceur de la laine et son ramage la musique de Verlaine. Dans les croquettes La Fontaine, on peut varier le menu. Riz soufflé à la tibétaine ou façon perrette au lait cru. Bom, 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 bom.
Hier, votre chien ne songeait qu'à jouer, toujours cherchant sa laisse pour aller promener.
Aujourd'hui, il ronge son os et sa rancœur, ignore les chiennes, même les plus coquettes, sa gamelle et ses mets, désormais tous les cœurs.
Il est temps de changer ces infâmes croquettes.
Biscuits et croquettes Jeannot, aux jambonneaux ou dindonneaux, rendront vos petits animaux plus costauds et bien plus finaux.
Chat qui ne miaule ou chien qui n'aboie guère pour crier famine, choisit de se taire.
Il vit de régime et mange à ses heures. À maigre tartine, préfère lard et beurre. La ration au Roquefort est toujours la meilleure.
Pour chat qui ne miaule ou chien qui n'aboie guère, suivez le conseil du vétérinaire. Chez Jeannot, les animaux ont droit de veto. Et au riz préfère un bon risotto.
Bio! Et Made in France à Château-Thierry, les produits fabuleux de La Fontaine sont testés dans nos labos de Vaux-le-Vicomte.
Pour les connaisseurs, les produits haut de gamme, comme le pâté à l'écureuil, sont servis aux Fouquettes.
On a compris, là.
Sur lafondlacroque.com, retrouvez tous les fabuleux de La Fontaine.
Dans les croquettes La Fontaine, on peut varier le menu. Riz soufflé à la tibétaine ou façon perrette au lait cru. Cuite sans graisse pour la ligne et pour le cœur aucun danger. Des plus fines gueules, elles sont dignes. En boîte, c'est facile à manger. Canard, lapin ou agneau tendre, du pâté La Fontaine est roi. Il faut déguster sans attendre ces fabuleux morceaux de choix. Avec une petite bedaine, seront costauds et plus finaux. Ils garderont fraîche leur haleine, tous vos chers petits animaux. Avec la pâte et La Fontaine, aux jambonneaux ou dindonneaux, fini la mise en quarantaine, biscuits et croquettes, Jeannot, Jeannot.
On reste dans La Fontaine avec trois personnages de La Fontaine, représentés ici par Jacques Vallée, par Dominique Muller, par Hervé Le Tellier. Voilà, ils ont un souci, ces trois personnages, c'est que le premier aimerait bien obtenir quelque chose du troisième, mais allez savoir pourquoi il n'ose pas le lui demander directement. Donc, il passe par un intermédiaire. C'est Jacques Vallée qui veut demander quelque chose à Hervé Le Tellier et il passe par Dominique Muller pour l'obtenir. Vous êtes qui chez La Fontaine ?
Moi, je suis le rat.
Oh non, vous êtes beaucoup
plus
mignon.
Oui, mais le rat
ça.
De la fable qui a délivré le lion, rappelez-vous, on a souvent besoin d'un plus petit que soi.
Oui.
Et j'écris au lion.
Et c'est vous, donc ?
Oui, mais oui, c'était ah, oui. Moi, le rat.
Ah oui, enchanté.
Voilà.
Oui.
Ô lion, qu'adore des forêts, puis-je vous rappeler mon ancienne prouesse ? Vous étiez pris dans des raies,
J'entendis votre détresse. Je vous vis, l'œil en feu de fureur écumant, faisant claquer la queue à l'entour de vos flancs. Mais vos rugissements ne vous pouvaient défaire du filet malicieux dont vous aviez affaire. Votre compte était bon. Qui aurait cru qu'un rat puisse sauver un lion ? Cependant, j'accourus et fis tant de mes dents que maille après maille, et ça m'a pris du temps, j'ai rangé ce réseau bien mieux qu'une cisaille. Avez-vous oublié ? N'aviez-vous pas juré éternelle alliance ? Puis-je encore espérer votre reconnaissance et vous considérer dès lors comme un allié ? Aujourd'hui, harcelé par un constant danger, vous me semblez le seul qui puissiez me sauver. Mon tenace ennemi est un chat redoutable, le Napoléon des chats, l'Attila, le fléau des rats. C'est le fameux Ramina Grobis de la fable, un chat exterminateur qui répand la terreur, qui voudrait des rongeurs dépeupler tout le monde. Je l'ai vu dévorer tous les miens à la ronde, l'ai vu faire de nous telle déconfiture qu'il mit nos plus beaux rats raidis en sépulture. Je l'ai vu s'acharner sur sa proie, le pervers. J'ai moi-même perdu ma queue dans la bataille. Ô monarque divin, cette franche racaille mérite pour le moins qu'on la traite au Karcher. Je demande humblement, comme faveur suprême, que vous vous adressiez à cet énergumène, usé de la menace, usé de la malice. Il faut que du quartier ce tueur déguerpisse. Vous avez griffes et dents qui donnent plus de droit que tous les coups fourrés de ce grand malotru. Au roi des animaux, promulguez une loi qui lui assurerait, s'il ne me lâche pas, d'être croqué tout cru. Vous en avez avalé vif pour moins que ça. Convoquez-le à votre tour, enfermez-le à double tour, que m'importe. Éliminez ce fou dangereux, pourvu qu'on ne me parle plus de lui. Je ne veux plus trembler au moindre bruit et je serai un rat heureux si le peu de soin que j'ai eu pour vous jadis me débarrasse enfin de Ramina Grobis. Oh.
Il n'a plus de queue, le rat, mais il a une jolie plume. Dominique Muller, vous avez donc reçu cette lettre du rat.
Eh oui.
Est-ce que vous allez faire quelque chose pour lui ?
Oh ben, j'écris à Ramina Grobis parce que moi, les requêtes, j'en ai jusque-là. Je suis
Vous en avez trop. Ah oui. Bah. Ouais, alors, qu'est-ce que vous lui dites à Ramina Grobis ? Ce sera Hervé Le Tellier, il a le profil.
Mon bon Ramina Grobis, je reçois du rat une requête idiote. S'il se contentait d'un bis, mais non, tu sais qu'il radote. Il t'en veut, te suspecte, c'est qu'il est parano, de vouloir le bouffer, lui et ses souriceaux. Tu fais ce qu'il te plaît, croque donc cette engeance, du moment que tu m'aides à obtenir vengeance, à régner sur les bêtes. Je me fatigue, moi, et voici que ce rat me danse sur la tête. Il prétend qu'il m'a sauvé un jour d'un filet qui sans lui m'aurait tourné autour. Idée de La Fontaine qui ne connaît que quick aux mœurs de notre cour. Connais-tu Perrichon, le pauvre homme, harcelé par la lugubre face d'un qui dit le tirer, lui, de la mer de glace ? Ce Perrichon, c'est moi, autant je suis ronchon. En tant que roi des lieux, le développement durable m'oblige à conserver même les incapables, les rats, les chats, les singes, même s'ils sont coupables de me casser pieds et pattes de leurs requêtes plates. Donc, ne le bouffe pas, il suffit d'une leçon à ce fier petit con. Approche-toi de lui, tombe-lui sur le rable, fais-lui croire à sa fin, à l'ultime prière. Et touc, envoie-le valser d'un coup de pied au derrière. Dis-lui que sa vie sauve, c'est à moi qu'il la doit, qu'il doit laisser en paix son seigneur et son roi, s'il ne veut pas qu'un jour je débarque en personne pour le faire monter en lampe pour ma lionne. Dis-lui qu'il cesse enfin, tout petit matamore, de colporter partout que sans lui je serais mort. Errare animal est, je sais bien, mais zut, j'aimerais régner sur des sujets plus fut-fut. aussi, vieux Ramina, toi que le souci mina quand la peste rendit ta pitance indigeste. N'oublie pas que le lion et lui seul te sauva en t'apportant des rats tout frais au goût céleste. N'oublie pas que demain je pourrais bien fermer de cette source de chair le vivant robinet. Alors débrouille-toi de miaou, de wawa, épouvante ce rat tel un psychanalyste pour qu'il me lâche enfin et trouve une autre piste. Parce que c'est dommage avec ce parano, il me faut tout garder car je suis écolo. Alors vas-y gros gros, alors vas-y bibis et tu seras nommé le chef de ma police.
J'aimerais préciser quand même que cet échange de lettres a été écrit en une demi-heure, il y a quelques jours, et ils ont fait des vers comme ça, comme on fait de la prose, nous.
Bah, c'est comme... comme M. Jourdain, quoi.
Alors, Hervé Le Tellier, vous êtes qui dans cette histoire ?
Alors, en fait, je suis le directeur du zoo.
Ah bon ?
Qui répond à La Fontaine, parce que La Fontaine a pris des décisions qui semblent logiques et méritées. Il faut bien dire qu'on commence à en avoir assez. Et donc voilà la lettre que j'écris à Monsieur de La Fontaine. Monsieur de La Fontaine, que je vous remercie de ces trois spécimens arrivés aujourd'hui. Le lion, le rat, le chat sont déjà dans des cages, ils sont sous sédatifs. Car ils m'ont mis en rage. Je comprends aisément qu'ils vous aient irrité, vous avez eu raison de me les renvoyer. Le lion plastronnait, se prenait pour un roi. Deux jours avec Sultan, notre tigre, et je crois que ce tyranno-là ne la ramènera plus. Le rat, lui, semblait croire que tout lui était dû. Il est dans un enclos où ils sont 32. Cela devrait le rendre un peu moins prétentieux. Bon, pour le chat, je ne sais ce que je vais en faire. Je pense le donner en pension à mon frère qui s'est reconverti, élève des visons et va... N'insistons pas, car nous nous comprenons. Voilà. Je vous envoie en colis séparés l'autre lion, l'autre rat, l'autre chat. C'est réglé. N'hésitez pas, cher Jean, s'il vous posait problème, à me recontacter. Nous agirons de même.
C'est mal parti.
Dans une ferme du Poitou, coq aimait une pendule. Ça faisait des conciliabules chez les cocottes en cours. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah mesdames, vous parlez d'un Jules. Le voilà qui chante à genoux, oh ma pendule, je t'adore, laisse-moi te faire la cour, tu es ma poule aux heures d'or. À minuit, il avance ou bien je recule. Se disait notre horlogerie qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles. En écoutant son Don Juan, lui se riner, ça c'est que dire pour imaginer.
imaginer son trépas. Prenez besoin d'être devin. La pendule sonne l'heure du repas. Coq au vin. Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule.
Claude Nougaro, Maurice Vander, Le coq et la pendule. Vous écoutez France Culture, Des Papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressard et la bande des Papous du jour. À suivre jusqu'à 13h58, côté privé. Des mots nouveaux pour le dire, des mots inventés par Eva Almassy. Des mots qui sonnent bien pour dire en un seul ce que l'on dit habituellement en une phrase. Tenez un exemple, signé Lucas Fournier, les cryptocrites. Qui seraient les cheveux qui traînent sur la veste de votre compagnon et qui ne sont ni les siens ni les vôtres. C'est pas joli joli, mais il fallait un mot pour ces cheveux-là. Donc aujourd'hui, c'est Eva qui a imaginé des mots et les a glissés dans un texte qu'elle soumettra pour traduction à Violaine Schwartz et Jean-Bernard Puy. À eux de décoder la pensée almacienne et de nous dire ainsi comment ces mots fonctionnent et s'ils font image. Donc Eva, vous avez inventé 6 mots, on les écoute avec attention, toutes sortes de mots, évidemment des substantifs, des verbes aussi je suppose, ça peut servir.
Ben déjà les verbes en général, ça sert à raconter une action.
Oui.
Et il y en aura.
Oui.
Donc 3, nushnushir, un verbe de deuxième groupe et c'est un verbe intransitif.
Comment tu dis ?
Nushnushir.
Vous l'écrivez comment ?
J'écris avec un trait d'union. Nushnushir.
N-U-S-H, trait d'union, N-U-S-H-I-R.
Exactement.
Et ça fait donc issant, puisque c'est le deuxième groupe. Hein.
Oui.
Nushnushissant. Participe présent.
Oui. Un verbe régulier du premier groupe, puisque ça va être plus facile tout de suite, hein. C'est quatridrier, et ça c'est en un seul mot, quatridrier.
Et plus, s'il vous plaît.
Mais comme quatre, mais ça se finit sur un i, et puis driller comme briller.
D-R-I-2-L-E-R.
Oui.
D'accord.
Verbe régulier du premier groupe, intransitif.
Ah bon ?
On quatridrille.
Mais on quatridrille pas quelque chose ?
Quelque chose, non. Comme ça en l'air.
Oui.
Après, j'ai un autre et dernier verbe régulier, premier groupe, mais pronominal, se répipiner.
Répipiner. Elle a fait dans la difficulté, hein, parce qu'avec son petit accent, tout passe, là, mais pour nous, c'est extrêmement compliqué à prononcer, je trouve. Se répipiner avec deux N, non.
C'est infiniment plus facile à prononcer que se récriminer, par exemple. Se répipiner, je vous signale.
Je
m'inspire de mots français, purement français, pour le tout. Bon, après, ça va être plus facile avec les noms.
Oui, peut-être.
Un simple nom masculin, mais qui peut être d'ailleurs mis au féminin. Ah. C'est un désuteur, mais ça pourrait être une désuteuse.
Désuteur avec Z-U-T.
Oui. Un désuteur, une désuteuse.
Un désuteur ?
Un désuteur ?
Pas un 18h, un désuteur.
Un désuteur.
Un désuteur.
Exut au milieu, quoi.
Oui. Ouais. Alors, vraiment, alors je vous simplifie la vie. Un frax.
Ah oui.
Absolument toujours masculin.
Ça, c'est deux.
Frax.
F-R-A-K-S.
Non, X.
F-R-A-X.
F-R-A-X.
Oui. Et le dernier ?
Le dernier, c'est rouge à l'Inde.
C'est un ou une ?
Une, toujours une, rouge à l'Inde.
Une rouge à l'Inde, c'est une joli ça. On dirait une héroïne de Shakespeare,
rouge à l'Inde. Ça se met avec des tirets ou c'est en un seul...
Rouge à l'Inde, c'est en un seul mot.
Ah oui, d'accord.
Alors, c'est un désuteur, un frax, une rouge à l'Inde. Ah, c'est très joli, ça, rouge à l'Inde l'emporte pour moi. C'est le personnage principal de votre histoire, je suppose, non ?
Ça n'est l'aboutissement en tout cas.
Alors on l'écoute votre histoire.
Si tu entends nushnushir, c'est en général trop tard. Mais si ça quadridrille carrément, mon vieux, que veux-tu, t'es foutu. Ne t'avais-je pas toujours prévenu contre les désuteurs ? Un frax est un frax, laisse-moi me répipiner. Je croise les doigts pour que ta rouge à l'Inde soit féconde.
C'est un texte extrêmement court, il n'y a même pas six lignes.
Oui, c'est très court, très simple.
Mais je suppose que les mots inventés par Eva veulent dire énormément de choses.
C'est possible.
Très bien. Mm-hmm. Écoutez, je vois vos airs réjouis, Violaine Schwartz, Jean-Bernard Fouy.
Est-ce que c'est une traduction ?
C'est vous, mes traducteurs.
Violaine Schwartz, Jean-Bernard Pouy, vous avez travaillé sur ces mots d'Eva qui étaient des mots un petit peu compliqués, en tout cas compliqués à se mettre en bouche, compliqués peut-être à conjuguer, non, Violaine ?
Oui, et puis ils étaient le texte est très très succinct et il y a beaucoup de...
Très
c'est
court,
ça.
Quatre toutes petites lignes. Pourquoi vous avez fait si court, Eva ?
Tout d'abord, je tente toujours à la concision et puis je pensais que... Ce « tu » pouvait être quelqu'un d'autre ou alors soi-même à qui on s'adresse. Donc, c'était pour donner le choix.
D'accord. En fait. Vous avez ressenti que vous aviez le choix, oui. Violaine ? Pas vraiment. Alors, on va y aller pas à pas, hein, parce qu'il y a certaines difficultés. La première étant le verbe « nuchnuchir », deuxième groupe, avait dit Eva Almassi. « Nuchnuchir », c'est joli en même temps, hein.
Et ça
veut dire quoi, Violaine, pour vous ?
Ça veut dire chanter à tue-tête, en pleine nuit, sans se soucier des voisins.
Nuche-nuchir,
je nuche-nuche.
Vous nuche-nuchez régulièrement, personnellement ?
Oui, sous ma douche, des fois, je nuche-nuche.
Oui, en pleine nuit, sous la douche. Et en plus, vous cumulez le décor sonore pour les voisins. Vous nuche-nuchez comment, vous, Jean-Bernard Pouy ? Ça veut dire quoi ?
Rarement. Non, c'est le verbe appliqué au bruit. Cliquetant que fait le couvercle du faitou sous la pression de l'eau bouillante.
Ça fait nuchnuchir. Est-ce que
Violaine est très très proche.
Ah bon ? Ah oui. Donc il y a ce côté joyeux dans nuchnuchir.
Pas forcément, mais il y a le côté gêner le voisin.
Ah bon ? En même temps, quand on chante en pleine nuit sous la douche, c'est pas forcément qu'on va bien. Et pour vous, nuche-nuchir, Eva Almassi ?
Nuche-nuchir, c'est un mot un petit peu spécifique aux chats. Oui. Donc, c'est pousser des cris fous d'amour, enfin, pas les chats, des chats qui se battent et s'arrachent des bouts d'oreilles sur les toits de ton gîte rural réputé le plus tranquille de la France profonde.
Nuche-nuchir.
Et c'est mon seul mot, je vous jure, d'étymologie hongroise, parce que, et encore tout à fait personnel, parce que nuche-nuche, c'était ma chatte en Hongrie.
Ça veut dire rien.
Nuche-nuche, j'ai retourné le mot chun qui veut dire hérisson, parce que pour moi, rien n'est plus contraire à un hérisson qu'un chat qu'on peut caresser, qui ronronne, etc.
Ils se mettent en boule tous les deux.
Oui, donc nuche-nuche, c'est ça. C'est les cris d'amour des chats, des miaulements violents.
Ah oui. Et alors, et quatridrier, ça voudrait dire quoi ?
Quatridrier, c'est aussi en rapport avec le bruit. C'est s'exercer à faire des claquettes avec des chaussures à bout ferré sur le parquet d'un salon, en pleine nuit aussi, éventuellement.
D'abord nuche-nuche, après
sous la douche,
quatridrier.
Voilà. Ouais, c'est pire ça. Encore.
Fred Astaire.
Voilà.
Ginger Rogers, ouais. Et pour vous, Jean-Bernard Pouy ?
Je reste dans la métaphore culinaire. Après avoir nuche-nuchi longtemps, le quatridrier, c'est le fracas unique et définitif de ce même couvercle quand il tombe sur le carrelage de la cuisine.
C'est très particulier.
Il fait des claquettes, quoi. C'est un peu qui fait des claquettes.
Oui, c'est un petit peu, Eva, ils sont très proches.
Moi, je pense que si ce mot se répand, peut-être va se changer en quatre-audriers, ou parce que quatridrier, apparemment, ils ont du mal à prononcer.
Ah, mais c'est très difficile,
quatridrier. Après, ça la langue
évolue.
Commune à tous, c'est comme un chewing-gum, donc après ça va s'adoucir. Mais pour l'instant, donc, on quatridrille, et c'est vrai pour le bruit, c'est vrai pour la nuit. Quatridriller, c'est chanter en chœur à 4 heures du matin, que ce soit des oiseaux particulièrement matinaux qui chantent, ou de jeunes gens rentrant chez eux après la fête, où ils n'ont pas bu que du Schweppes en rêvant d'Uma Thurman ou de Penelope Cruz. C'est tout
en
ça.
En fait, votre sens de quatridrier est le sens de Nuschnuschir de Violaine.
Oui.
C'est drôle.
Ça,
hein.
Oui, hein, exactement.
Vous êtes loupé un tout petit peu à deux mots près.
Oui. Il y a une histoire comme ça. On apprend toutes les langues d'une langue, mais quand on a copié, les significations étaient décalées juste d'un cran. Et on connaît toute une langue qui n'existe pas.
C'est très joli, oui. Et ce répipiné, Violaine ?
C'est de l'argot, un petit peu, dans mon esprit. C'est se débiner sur un coup de tête, sans donner de préavis, en abandonnant toute sa vie derrière soi.
Ah oui, c'est définitif, quoi. Voilà. On ne reviendra pas, a priori.
Non. Hein ?
Et vous, quand vous vous répipinez, Jean-Bernard Pouy,
c'est se mettre dans la position infamante de celui qui rabâche toujours la même chose.
Par exemple ?
Ferme la porte, je te dis. Mets un peu d'humour dans ta voix.
Oui, ça, c'est avec
la répipine.
C'est avec les vieilles personnes. Ça, oui.
Il y a ce côté un peu obsessionnel chez vous, Eva ?
Non, mais mon répipiné à moi pourrait être en réponse au répipiné de JB. Parce que se répipiner, ça se marrer à tel point qu'on doit se retenir de faire pipi dans sa culotte. Donc vous avez vu très juste que dans l'étymologie du mot, à la racine, il y avait pipi.
Alors on va passer aux trois substantifs et d'abord au désuteur. C'est quoi un désuteur, Jean-Bernard Pouy, pour vous ?
Alors, le désuteur, c'est un spécialiste des instruments de cuisine, notamment des cuisinières en fonte, au rabais. Qu'on vend chez certains brocanteurs. Les pianos, comme on appelle ça.
Ah oui, on est vraiment dans la cuisine.
Ah, moi, j'ai,
on n'en sort
moi, j'ai,
pas, oui.
J'ai faim, là, donc j'ai...
Monomaniaque.
Oui. Monomaniaque,
un petit peu. Le désuteur de Violaine est différent, je suppose.
Oui, c'est un voisin bruyant et agressif, de surcroît, répondant systématiquement zut, si on lui demande de faire votre silence.
Ouais.
Oui, mais zut, bien sûr, c'était au fond de...
C'était au fond du mot, hein.
Oui. Mais alors, cette fois, c'est JB qui est très ah proche, bon. Avec le rabais, avec le genre baratineur, quoi. Parce que chez moi, un désuteur, c'est un agent de location saisonnière qui aplanit toutes tes inquiétudes par un irrésistible baratin en promettant luxe, calme et volupté pour deux sous dans des demeures isolées improbables. Donc, c'est exactement ça, quoi. On te promet plus qu'on ne te donne.
Oui, mais habiter dans une cuisinière, c'est un peu plus.
Ah, mais il est très clairvoyant, Jean-Bernard Pouy.
Landru, il faisait très bien.
Il faisait habiter les autres.
Et un frax, Violaine Schwartz.
Un frax, c'est un immeuble au mur fin comme du papier, du genre HLM Empire.
Mais c'est un mot qu'il fallait trouver.
Ah bah oui.
Hein? Et il a un sens maintenant. Bon, on est dans la cuisine de Jean-Bernard Pouy. Il y a son couvercle par terre. Il y a sa cuisinière qui n'est pas...
Terrible.
Top. Et on en arrive
pas
au frax.
Eh bien, le frax, c'est un ragoût à base de haricots et de longes de porc, mais qui doit mijoter au moins 5 heures. Sinon, c'est imbouffable.
Ah oui, d'accord.
C'est le frax. C'est... Ça vient du pays d'Eva, un peu par là-bas. Quoi.
Ah bon, c'est pas comme le goulash.
C'est pas le goulash. La goulash, d'ailleurs, on dit.
Ah ça, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de genre dans le hongrois. C'est comme vous voulez.
Tout le monde me dit, on dit la goulash, et pas le goulash.
Bah, c'est comme vous voulez, puisque c'est vous qui ajoutez le genre.
Il n'y a ni masculin ni féminin en hongrois.
Non.
J'ai bien remarqué, oui.
C'est quoi le frac?
Ça a un petit rapport avec la bouche, parce que un frax, c'est la parole donnée du désuteur. Donc, le désuteur est un agent un peu fourbe, sinon doux.
Oui.
Donc, on ne peut pas très bien s'y fier, quoi.
D'accord.
Et bon, il peut être notre voisin. Donc, finalement, Violaine, si vous avez pour voisin un désuteur, sa parole vous dérangera à travers le mur.
On ne peut pas lui faire confiance.
Non.
Oui, se méfier des fracs, quoi.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de ce mot, Patrice Delbourg ? Qu'est-ce que vous auriez donné comme sens à frax ?
Frax, plutôt quelque chose de vestimentaire,
j'aurais donné. Ah oui, comme frac.
Oui, j'aurais donné quelque chose vers le couvre-chef, ou peut-être un petit raglan, un petit manteau un peu près du corps.
Ah oui.
Voilà, le frax. En pensant aussi à Fraxon, évidemment.
Évidemment, évidemment. Voilà, on aborde le magnifique mot, peut-être le plus joli de toute la liste, c'était la rouge à l'Inde. C'est quoi une rouge à l'Inde, Violaine ?
C'est une inspiration administrative nécessaire pour écrire des lettres recommandées, des préavis, des plaintes, des réclamations, des... Voilà.
Ah bah c'est pas si bien que ça, alors.
Il
faut ce qu'il faut, quoi.
C'est savoir manier les... je vous prie de recevoir...
Les tournures. Académique, bon, alors c'est quoi dans votre cuisine, Jean-Bernard Pouy ?
Alors, c'est une fête. Ah. C'est le repas supposé inouï qu'on propose à votre chef de bureau que vous avez invité afin d'avoir une augmentation.
Mmh. Oui. Oh, mais avec tout ce qui s'est passé avant dans la cuisine, moi j'ai très peur pour l'augmentation, justement. Que ça ne marche pas, oui. Et la rouge à l'Inde est bas.
La rouge à l'Inde... C'est un rapport très fort même à l'écriture, donc Violaine n'est pas si loin. Ouais. Mais alors je dois dire, Françoise, que c'est vous, alors votre intuition de tout à l'heure.
Ah bon ?
Parce que étymologiquement, rouge à l'Inde, ça vient exactement de Rosalinde, dans Comme voilà. Il vous plaira de Shakespeare, dont c'est l'augmentatif, voire le superlatif. Mais alors, c'est l'idée de... Comme il vous plaira, car c'est la retraite du romancier dans l'arrière-pays et pendant l'arrière-saison, où il écrira, par exemple, notre Jacquat, ses meilleurs romans. Voilà. Lui, il était dans des lieux isolés où il y avait une chèvre à 2 kilomètres et rien d'autre. Et
il adore écrire avec une chèvre à 2 kilomètres, Jacquat Bertrand. Eh bien, on écouterait volontiers vos traductions du texte d'Eva Almassy avec un titre. Jean-Bernard, on commence avec vous. Inside my cuisine, non ?
Voilà, c'est un très bon titre. Raté.
Raté, ça s'appelle. Bon.
Si tu entends le cliquetis que fait le couvercle du faitout sous la pression de l'eau bouillante, c'est en général trop tard. Mais si c'est le fracas unique et définitif de ce même couvercle tombant carrément sur le carrelage de la cuisine, mon vieux... Que veux-tu ? T'es foutu. Ne t'avais-je pas toujours prévenu contre tous ces soi-disant spécialistes qui déclarent s'y connaître en cuisinière en font au rabais ? Un ragoût de haricots et de longes de porc qui doit mijoter au moins 5 minutes est un ragoût qui doit mijoter au moins 5 heures. Laisse-moi me mettre dans la position infamante de celui qui rabâche toujours les mêmes choses. Je croise les doigts pour que ce repas avec ton chef de service... afin d'obtenir une augmentation, soit fécond.
Vous croisez les doigts, mais vous n'y croyez pas. Hein. Pas trop. Hein.
Ouais, moi, j'y serais pas, je m'en fiche. Il se débrouille. Hein.
Bon, bah, c'est un peu une histoire de pré-ratage. On a peur, quoi.
Oui.
On a peur de ce qui va suivre. Et avec vous, Violaine, je crois qu'on va avoir peur aussi de ce qui va suivre, d'ailleurs.
Si tu entends chanter à tue-tête en pleine nuit, c'est en général trop tard. Mais si ça s'exerce à faire des claquettes avec des chaussures à boufférer sur le parquet du salon du dessus, carrément, mon vieux, que veux-tu ? T'es foutu. Ne t'avais-je pas toujours prévenu contre ces voisins bruyants et agressifs de surcroît, répondant systématiquement « zut » si on ose leur demander de faire silence ? Un immeuble au mur fin comme du papier du genre HLM Empire est un immeuble au mur fin comme du papier du genre HLM Empire. Laisse-moi me débiner sur un coup de tête, sans donner de préavis, en abandonnant tout derrière moi. Je croise les doigts pour que ton inspiration administrative nécessaire pour écrire des lettres recommandées, des préavis, des plaintes et des réclamations soit féconde.
Mais ça, c'est très proche quand même.
C'est vrai, de ce que vous avez
écrit. Oui, parce que, sauf que son personnage passe à l'acte après et va s'en aller. Tandis que mon romancier, vous verrez, doit rester. Mais on aurait pu donner, elle et moi, le titre de l'intranquillité, comme si c'était soi à nos textes. Ça, c'est vraiment très proche.
Oui. Oui, on sent une angoisse diffuse, quoi. Il faut s'en aller partir, quoi. Oui, absolument. Pour rester en vie, quelque part. Hein, y a tout ça. Oui,
et puis le manque d'isolation.
Alors, ce texte, cette histoire avec un titre, Eva.
Mais donc, l'intranquillité. Voilà. Mm-hmm. Si tu entends pousser des cris par des chats fous d'amour et qui se battent et s'arrachent des bouts d'oreilles sur les toits de ton gîte rural réputé le plus tranquille de la France profonde, c'est en général trop tard. Mais si ça chante en chœur à 4 heures du matin, que ce soit des oiseaux particulièrement matinaux qui chantent ou de jeunes gens rentrant chez eux après la fête où ils n'ont pas bu que du Schweppes en rêvant d'Uma Thurman ou de Penelope Cruz, carrément, mon vieux, que veux-tu, t'es foutu? Ne t'avais-je pas toujours prévenu contre les agents de location saisonnière qui aplanissent toutes tes inquiétudes par un irrésistible baratin en promettant luxe, calme et volupté pour deux sous dans des demeures isolées improbables? Une parole donnée d'agent de location est une parole donnée. Laisse-moi me marrer au risque de faire pipi dans ma culotte. Mais je croise les doigts pour que ta retraite de romancier dans l'arrière-pays et pendant l'arrière-saison soit féconde.
Quand même, il y a un petit message d'espoir à la fin. Hein. Enfin, le nœud de l'histoire n'est
parce
pas
que ça réussit
joyeux.
À certains. Serge Joncourt, dans son dernier roman, a réussi.
Oui, c'est vrai.
Écrivain en résidence, c'est pas les chats qui l'auraient détourné.
Non. Non. Qu'est-ce que vous pensez de l'exercice, Patrice Delbault, vous qui étiez un peu à l'extérieur, mais auditeur.
Auditeur, oui.
Et romancier.
Auditeur libre. Oui, mais détestant l'arrière-pays. Et surtout les arrière-saisons. Oui.
Donc vous ne gardez pas grand-chose, là. L'angoisse, peut-être.
Oui, l'angoisse, elle est chevillée. L'anxiété est toujours là, bien sûr. C'est souvent ce que je retiens d'un texte. C'est vrai, comment avez-vous deviné?
Des papouilles dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Pierre Mine. Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr. Pendant un an, vous cliquez sur podcast et vous vous laissez guider. Et puis, glissez vos remarques, questions, suggestions, infos à la rubrique commentaires des papous du jour et baladez-vous sur nos pages livres des papous et la vie du club. Et puis, regardez nos vidéos. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook où l'on échange entre amis. Dans quelques instants, ce sera l'heure de Tire ta langue. L'émission d'Antoine Perrault à écouter pour un beau dimanche sur France Culture. Au revoir. Je...